Bonjour à toutes et à tous. La crise de la Covid est-elle une crise de la solidarité? La pandémie a révélé au grand jour les égoïsmes nationaux. Les États ont accumulé des stocks de matériel médical, allant parfois jusqu'à détourner des commandes de masques ou de respirateurs directement sur le tarmac. La coopération a fait défaut malgré l'existence d'institutions internationales créées à cet effet il y a plus de 70 ans. À présent, la crise sanitaire se double d'une urgence économique et climatique qui nous oblige à en finir avec le chacun pour soi. Alors l'année 2021 signera-t-elle le retour de l'entraide? La discussion est ouverte. Bienvenue à tous dans Entendez-vous l'écho. Pour repenser la solidarité internationale, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui trois invités. Vincent Gaillon, politiste, maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine et directeur d'un numéro de la revue des actes de la recherche en sciences sociales consacré à l'Organisation internationale de l'économie. Jean-Marc Sirohen, économiste, professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine. Et Sébastien Treyer, directeur général de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales. Une émission à retrouver, comme toutes celles qui précèdent, sur franceculture.fr et sur l'application Radio France. Bonjour à tous les trois. Et merci d'être avec nous aujourd'hui à distance. Alors, lors de l'épidémie de grippe espagnole survenue après la Première Guerre mondiale, il n'y avait pas encore de cadre de coopération internationale comme il existe aujourd'hui. Les institutions et les règles communes dans le domaine sanitaire n'ont vu le jour qu'au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, la coopération n'a semble-t-il pas été au rendez-vous lors de cette crise. C'est aussi votre avis, Jean-Marc Sirohen, et si oui, comment l'expliquer?
Non, la coopération n'a pas été au rendez-vous, c'est certain, en tout cas pas suffisamment au rendez-vous. Alors on peut se consoler en se disant que ça aurait pu être pire, hein, dans une situation d'une telle rareté, d'une telle concurrence pour les masques, pour les tests et aujourd'hui pour les vaccins, on pourrait presque dire que ça aurait pu être bien pire encore que cela. Donc c'est un bilan intermédiaire, il faut pas se faire d'illusions, hein. Les enjeux étaient tellement importants qu'il y avait une concurrence relativement forte. Alors on peut également se consoler en disant que la coopération européenne a pas si mal marché, et se désoler peut-être que l'OMS n'a pas pu tout à fait remplir ses fonctions. En tout cas, au début, elle a eu quelques difficultés. Elle a un peu de mal à décoller, alors que c'était l'OMS qui était censé s'occuper de cette coopération sur les questions de santé.
Vincent Gaillon, ce sont notamment les tensions géopolitiques entre la Chine et les États-Unis qui ont empêché les États de coopérer.
Oui, c'est vrai que l'OMS a été mise en cause depuis le début de part et d'autre, et que cette mise en cause est révélatrice finalement des défis plus généraux posés aux organisations internationales pour répondre à ce type de risque collectif. Et ce type de procès n'est pas tout à fait nouveau, et on pourrait le faire remonter même à l'Office international d'hygiène publique qui avait été créé en 1907 par les métropoles et qui était, comme l'OMS aujourd'hui, chargé de recueillir les informations pertinentes, mettre aussi en place des mesures de quarantaine entre métropoles et colonies pour gérer l'arrivée de virus et d'épidémies en métropole. Mais et donc du coup aujourd'hui sur l'OMS, on pointe à la fois son financement, son inaction. On l'a fait pour la gestion par l'OMS du VIH dans les années 90, pour le SRAS en 2001-2002, pour la grippe H1N1 en 2009, en 2014 c'était pour Ebola. Et finalement, cette prise à partie de l'OMS n'est que le revers, il me semble, de l'absence de volonté des acteurs étatiques, notamment des acteurs étatiques dominants, de lui donner plus d'autorité. Là encore, aujourd'hui, on l'a vu avec, il y a assez peu de temps, avec la mission d'inspection chargée de retrouver la souche du virus et de pister un peu son origine, qui avait été entravée, et notamment dans les demandes de visa par le gouvernement chinois. Il n'en demeure pas moins qu'il me semble que l'OMS reste déterminante pour les pays au système de santé déficient, d'autant plus dans un secteur où l'accès aux médicaments de base, dont les vaccins, est de plus en plus entravé, par des questions de droit de propriété intellectuelle, et je pense qu'on y reviendra peut-être, que depuis les années 90, on a vu s'accroître sur cette question-là, sanitaire internationale, les logiques de marché dans ce secteur a priori épargné jusqu'ici.
On comprend qu'il y a eu une défaillance du côté des institutions internationales, à commencer par l'OMS, mais peut-être aussi de l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU notamment, qui avait estimé lors de la crise d'Ebola en 2014 que cette épidémie apparue en Afrique de l'Ouest était une menace pour la sécurité du monde. Et dans ce cas, dans le cas du coronavirus, elle est restée plutôt muette, Sébastien Treyer. C'est un manque de volonté politique de donner aussi du pouvoir à cette institution qui est en cause.
Oui, je rejoins tout à fait l'analyse qui vient d'être faite, hein, sur le fait qu'il ne faut pas donner à ces organisations internationales une personnalité autre que celle de l'Assemblée générale des États qui la dirige. Alors évidemment que le secrétaire exécutif de ces organisations a un peu de poids, le fait que le secrétaire exécutif de la FAO sur l'alimentation soit chinois, ça donne aussi une forme d'orientation politique peut-être un peu à ces organisations, mais disons que ces organisations ne font que ce que les États les autorisent à faire. Et donc moi, il me semble que c'est vraiment ça qu'on a vu se profiler autour de l'OMS. On avait des États-Unis qui critiquaient l'OMS pour le fait qu'elle aurait été inféodée à la Chine. Et il me semble que ça c'était pas. C'est souvent une manière de présenter les choses qui est fallacieuse, parce qu'en fait, on n'a pas de gouvernement à cette échelle-là, et donc c'est bien l'Assemblée des Nations autour d'une organisation qui décide de ce qui s'y passe. Et pour moi, le fait que au-delà de la commission d'enquête et des vaccins, il y aura maintenant un énorme chantier autour de l'action préventive pour savoir comment éviter que ces choses se reproduisent. Et on a à ce moment-là un autre chantier qui s'ouvre, sur lequel on reviendra peut-être, qui est la question des collaborations entre l'Organisation mondiale de la santé humaine, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OIE qui est à Paris, la FAO sur l'alimentation, et puis toutes les conventions sur la biodiversité et le climat. Et donc ça, on a des éléments qui sont déjà sur la table, mais pour l'instant, les États sont assez frileux pour en faire autre chose qu'un programme de recherche.
Alors l'année 2021 signera-t-elle le retour de la solidarité? C'est en tout cas ce que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, appelait de ses voeux il y a quelques jours, le 15 janvier 2021.
Malheureusement, en l'absence d'une action concertée au niveau mondial, les effets meurtriers de la pandémie se sont aggravés. Pour honorer la mémoire de ces 2 millions d'âmes, le monde doit se montrer bien plus solidaire. Il est temps. Des vaccins sûrs et efficaces contre le Covid-19 sont disponibles. L'ONU aide les pays à mener la plus grande campagne de vaccination de l'histoire. Nous sommes engagés à ce que les vaccins soient considérés comme des biens publics mondiaux, des vaccins du peuple. Il faut donc garantir le financement intégral du dispositif pour accélérer l'accès aux outils de lutte contre le Covid-19 et de son mécanisme COVAX, dont l'objectif est de rendre le vaccin disponible et abordable pour toutes et tous. Les grandes économies de la planète ont une responsabilité particulière à cet égard. Pourtant, nous observons aujourd'hui un vide vaccinal. Si les pays à revenus élevés ont accès aux vaccins, ce n'est pas le cas des pays les plus pauvres. C'est un succès pour la science, mais un échec pour la solidarité.
Voilà, l'objectif de la mission COVAX était en effet que tous les habitants de la planète soient vaccinés à la même vitesse, quelle que soit leur nationalité. On en est loin aujourd'hui, Jean-Marc Sirouen?
Oh bah c'est un peu tôt pour le dire, hein. Là, les campagnes de vaccination ne font que commencer. Alors je crois qu'il y a deux.
Mais ce sont les commandes groupées qui priment plutôt que les commandes individuelles, contrairement à ce qu'avait demandé cette mission COVAX.
Et pour l'instant, oui, certainement. Enfin, en principe, COVAX s'est engagé à fournir 2 milliards de vaccins. Je sais pas trop où ça en est. Et là aussi, je pense que c'est un peu trop tôt pour savoir. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas les mêmes capacités, les mêmes rapports de force avec les fournisseurs pour les pays en développement. Donc, même si le pire n'est pas certain, on peut être effectivement légitimement inquiet. On peut regretter que peut-être les pays en développement n'aient pas réussi, notamment les pays africains ou les pays du sud asiatique et d'Amérique latine n'aient pas réussi eux-mêmes à coopérer, à faire un peu comme avait fait l'Europe. Mais là, on en est de toute façon très loin. Le niveau d'intégration de ces pays est beaucoup trop faible. Donc il y a effectivement un danger. Et alors les vœux du secrétaire général de l'ONU, évidemment on y adhère, mais il y a énormément d'obstacles. On a parlé tout à l'heure de l'obstacle des brevets qui rendent difficile la production, je dirais délocalisée des vaccins, notamment par les pays en développement. Les licences, les pays en développement peuvent obtenir des licences dites obligatoires, hein, pour fabriquer les vaccins. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas les capacités de production pour produire ces vaccins. Donc il y a tout un système juridique et productif qui est aussi à maîtriser. Et c'est vrai que, alors, je suis pas sûr effectivement que COVAX réussira à le maîtriser, mais il y a effectivement beaucoup de travail à faire, et je doute effectivement que les vœux du secrétaire général de l'ONU puissent être exaucés dans l'année qui vient.
Alors ce que l'on constate, c'est que les pays riches achètent plus de vaccins qu'ils n'ont de concitoyens. C'est ce que l'on a constaté notamment du côté de l'Europe, du côté du Canada. Et alors ce qui pose problème, c'est effectivement le fait que ce soit les commandes individuelles qui prient, alors que l'objectif de COVAX c'était que ce soit des commandes groupées afin que cela profite aux pays les plus pauvres, afin que ces vaccins soient moins chers. Et l'Allemagne a déjà commencé par exemple à jouer cavalier seul. Elle a passé commande en son nom propre en rompant la règle d'achat groupé de l'Union européenne. Ce qu'on voit, Vincent Gaillon, c'est que même au sein de l'UE, la solidarité fait défaut.
Oui, et ça se retrouve là aussi. On évoquait tout à l'heure l'assemblée de l'OMS qui réunit 194 membres, mais elle est contournée en fait habituellement par les pays riches qui lui préfèrent la diplomatie de club comme le G7, le G20, l'OCDE ou l'Union européenne. Et y compris là, on le voit dans le cas de l'Union européenne, une tentative là d'unilatéralisme ou de cavalier seul de l'Allemagne. Donc oui, c'est des stratégies relativement classiques d'acteurs dominants qui à un moment voient leur intérêt stratégique national dominé et donc chercher à réduire les risques sanitaires en priorité pour leurs concitoyens.
Et ce que l'on constate, Sébastien Treyer, c'est qu'à l'heure actuelle, c'est le vaccin du laboratoire suédois AstraZeneca et de l'université d'Oxford qui s'est le mieux vendu dans le monde, mais que les vaccins qui se vendent dans les pays en développement, ce sont plutôt les vaccins chinois et russes, ce sont eux qui sont en tête des commandes parce qu'ils sont moins chers, Sébastien Treyer.
Je pense qu'on peut y voir évidemment une logique économique, une logique de. Il ne faudra pas sous-estimer le facteur technique sur lequel moi je ne suis pas un spécialiste, mais qui fait que certains vaccins sont plus compliqués dans la chaîne de froid et de mise à disposition pour les campagnes de vaccination. Mais on voit tout à fait un élément politique aussi dans le choix par ces pays en développement. On voit l'Inde développer son propre médicament de manière très affirmée et nationaliste. On voit Cuba proposer aussi ses propres vaccins. Et je pense que d'une certaine manière, la Chine va probablement se prévaloir d'une forme de victoire, d'avoir réussi à être celle qui fournit les vaccins à un certain nombre de pays africains. Et donc c'est absolument... Je me réjouis pas de cette lecture nationale et nationaliste de la mise à disposition des vaccins pour les pays les moins avancés, mais disons qu'au moins on voit que cette offre est un peu diversifiée et il faudrait vérifier comparer l'efficacité des différents vaccins qui seront mis à disposition des pays du Sud. Si le vaccin chinois est très efficace, à titre personnel en tant que citoyen du monde, je ne serais pas malheureux du fait que ça soit le vaccin chinois qui approvisionne l'Afrique. Ça sera juste un état de fait.
Mais alors qu'est-ce qu'il faut conclure du fait que la France est le seul pays du Conseil de sécurité de l'ONU qui n'ait pas fabriqué son propre vaccin, Jean-Marc Sirouen?
Ah ben bien sûr, il faut le déplorer. Mais bon, ils n'ont pas fait les bons choix. On paye sans doute une certaine négligence sur la recherche. C'est effectivement assez rageant de voir qu'un laboratoire comme Sanofi, qui était leader pour certains vaccins, n'est pas capable de produire aussi vite que les autres ce vaccin. Donc on aura effectivement à se poser la question. Maintenant, de toute façon, on ne pouvait pas se reposer uniquement sur Sanofi. La preuve est faite, mais même au départ. Donc, pour revenir sur la question tout à l'heure, on a commandé beaucoup plus de vaccins parce qu'on n'est pas non plus sûr de tous les avoir. Hein. Lorsque la commande a été passée, il y avait encore une incertitude sur la production de ces vaccins. Et on n'a pas eu tort de multiplier les fournisseurs, quitte à ce que les commandes soient en quantité plus importante que la population. Mais c'est vrai que on va avoir à poser la question de Sanofi, de la recherche, et essayer d'expliquer pourquoi Sanofi n'a pas été en mesure. Alors, il y a toujours un risque, il y a toujours un hasard, il peut y avoir des laboratoires qui ont de la chance, d'autres qui n'ont pas de chance, mais il peut y avoir des causes structurelles plus profondes, il faudra certainement faire le point là-dessus.
Et Vincent Gaillon, on a aussi acheté plus de vaccins avec cette possibilité de redistribuer éventuellement le surplus de vaccins à des pays qui n'auraient pas les moyens financiers de les acheter.
Moi, je voulais rebondir sur la question là du bilatéralisme et le fait, et notamment que là les vaccins chinois puissent être utilisés aux fins de la politique étrangère chinoise et à destination là des pays du Sud. Et ça me paraît être aussi à la fois un contournement des organisations internationales et une instrumentalisation là stratégique de ce manque sanitaire dans les pays du Sud. Et donc là doit se rejouer aussi l'intervention des États, notamment européens et occidentaux, pour en matière de leadership dans cette solidarité sanitaire internationale. Et donc de réallocation des vaccins à travers le monde.
On va voir comment effectivement la Chine peut profiter de la situation aussi pour étendre son influence dans un certain nombre de pays. Et alors il y a d'un côté les vaccins dont on a parlé, et puis de l'autre la recherche visant à trouver l'origine du virus. L'OMS, vous l'avez dit, a enfin reçu l'autorisation d'aller enquêter à Wuhan. Un an après le début de la pandémie, 10 experts sont arrivés sur place le 14 janvier. Après leur arrivée à Wuhan, le groupe d'experts internationaux sera d'abord mis en quarantaine. Pendant cette période, les scientifiques et les experts médicaux chinois auront des communications approfondies avec le groupe d'experts internationaux par vidéo. Après ces deux semaines, nous pourrons nous déplacer et rencontrer nos homologues chinois en personne et nous rendre sur les différents sites que nous voudrons visiter. Que cette mission et les autres missions soient axées sur la science, pas sur la politique. Nous cherchons ici des réponses qui pourraient nous sauver à l'avenir, et non des coupables ou des personnes à blâmer.
On a entendu le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois, Zhao Lijian, puis le chef de la mission de l'OMS, Peter Benenbarek, et l'un des experts, le docteur Michel Ryan. Alors les premières traces de l'infection vont sans doute être compliquées à retrouver à Wuhan, mais ce qui est sûr, Sébastien Atrier, c'est que l'OMS veut aujourd'hui prouver son efficacité après les critiques dont elle a fait l'objet pour sa gestion de la pandémie.
Je pense qu'elle est effectivement mise en cause, et le directeur général de l'OMS, que les États-Unis ont accusé d'être vendu ou d'être trop proche de la Chine, il faut absolument que la commission d'enquête en Chine mette en lumière les origines d'un point de vue scientifique, et puis d'une certaine manière on arrive à lever le voile sur d'éventuels dysfonctionnements du côté chinois. Il ne faudra pas hésiter aussi à avoir d'éventuels dysfonctionnements du côté européen ou américain ensuite dans la gestion de la suite. Chaque pays a sa responsabilité dans la diffusion du virus, et pas uniquement la Chine, mais on voit bien que ça c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Je pense que c'est extrêmement important ce volet que vous soulignez de la recherche sur les origines du virus, parce que précisément toute action préventive sera d'autant mieux informée qu'on aura pu comprendre d'où est issu ce virus. Et il faut voir quand même que les spécialistes du secteur des pandémies et du lien des pandémies avec la biodiversité soulignent à quel point il y a pas seulement la question des marchés de gibier sauvage en Chine, mais que l'ensemble de l'intensification du secteur agricole et du secteur de l'élevage est en cause dans les liens possibles entre dégradation de la biodiversité et risque de pandémie. Et donc on va avoir besoin d'agir très fort de manière préventive, et l'OMS a besoin d'être forte pour faire cela, parce qu'elle sera un axe essentiel de la galaxie onusienne sur ce qu'on appelle One Health, une seule santé, santé des écosystèmes, santé animale et santé humaine.
Il va être important de faire la lumière à la fois sur les origines du virus, Vincent Gaillon, mais aussi sur cette question des relations entre la Chine et l'OMS, puisqu'on se souvient que c'est sur la base de ces accusations que les États-Unis ont quitté l'OMS au mois de juillet dernier.
Enfin, ils ont gelé leur contribution volontaire, leur contribution individuelle à l'OMS, qui fait d'ailleurs passer la fondation Gates comme premier contributeur net à l'OMS. Elle était deuxième jusque-là derrière les États-Unis. Et dans l'optique d'un renforcement de l'autorité de l'OMS en la matière, certains considèrent qu'il faudrait renforcer surtout son autorité dans les contextes d'urgence à la manière, si vous voulez, de l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui est la seule organisation internationale qui a le pouvoir de mener des actions contraignantes de surveillance et d'inspection, et qui peut aussi saisir le Conseil de sécurité de l'ONU. Alors bon, là, dans le cas présent, le fait est que la Chine, si elle avait voulu, et si ce dispositif existait, aurait pu opposer un veto, mais ça aurait été une position politique extrêmement coûteuse à défendre au Conseil de sécurité de l'ONU. Mmh. Mais en tous les cas, ça peut être un moyen de renforcer le caractère opérationnel de l'OMS dans ce type de dépistage à titre préventif, et de pas attendre quasiment un an pour essayer de pister l'origine de ce virus.
Ce que l'on voit. Oui. Allez-y.
Les enjeux d'intégration de la santé mondiale dans les enjeux de la biodiversité et du climat, ça c'est la vraie piste de réflexion, le vrai gros chantier très ambitieux et en même temps nécessaire qui s'offre à l'OMS et plus largement au système onusien. Pour aujourd'hui et les années et les décennies qui viennent.
Ce que l'on comprend, Jean-Marc Sirouen, c'est que il y a une nécessité aujourd'hui de réformer l'OMS, qui manque à la fois de moyens budgétaires et d'indépendance face aux États.
Jean-Marc Sirouen. C'est le cas de toutes les organisations internationales. C'est le cas de toutes les organisations internationales. Hein. On retrouve à l'OMS ce que l'on trouve un petit peu partout. C'est-à-dire qu'effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, ce sont des organisations qui dépendent complètement des États. Donc il y a toujours la tentative de rechercher à la fois un certain consensus et en même temps un rapport de force qui joue pour déterminer des leaders. Et le problème qu'il y a dans les organisations internationales, c'est qu'il n'y a plus vraiment de leader, hein. Et c'est d'ailleurs pour ça que les États-Unis, qui ne parviennent plus à avoir le pouvoir hégémonique qu'ils avaient autrefois, tendent à se mettre un peu à l'écart des organisations internationales qu'ils ont créées il y a 70 ans, parce qu'ils n'ont plus ce pouvoir hégémonique, ou ce pouvoir, de leadership, ce qui permettrait de mettre en place cette coopération. Donc le leadership a été remplacé par la rivalité, par la concurrence, et même si on peut intellectuellement ne pas se contenter de leadership, la situation, l'idée de leadership et d'hégémonie, la situation actuelle devient beaucoup plus chaotique et affaiblit les organisations internationales. C'est vrai pour l'OMS, c'est pire encore pour l'OMC, la Banque mondiale et le FMI, c'est moyen, mais c'est un problème plus général, c'est comment on construit le multilatéralisme, comment on fait renaître le multilatéralisme dans un système où pour l'instant il ne fonctionne pas très bien.
Alors la solidarité apparaît d'autant plus nécessaire aujourd'hui qu'aux enjeux sanitaires et économiques s'ajoutent évidemment les défis climatiques. Peut-on renouer avec la coopération ? On continue à en parler dans un instant. Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. Sky.
toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. And how is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together.
Happy Together sur France Culture dans Entendez-vous l'écho. Suite de notre discussion sur la solidarité internationale à l'heure du Covid, nous sommes toujours en compagnie du directeur général de l'IDRI, Sébastien Treillère, de l'économiste Jean-Marc Sirouen et du politiste Vincent Gaillon. Alors la coopération a fait défaut dans cette crise, on l'a dit dans la première partie de cette émission, et cela alors qu'en 2008, au moment de la crise financière, les États avaient, semble-t-il, mieux réussi à coordonner leurs réponses. Comment expliquer cette différence de réaction, Jean-Marc Sirouen?
Mais lors de la crise de 2008, effectivement, il y avait eu une volonté réelle de coopération, et c'était le G20 qui avait servi de lieu d'accueil de cette coopération avec la multiplication des réunions. On avait même parlé au départ de nouveau Bretton Woods, ce qui était un petit peu exagéré, mais effectivement, il y a eu cette volonté. Mais sans doute que peut-être que deux éléments de réponse. Le premier, c'est que finalement, la crise financière a fait davantage peur que la crise sanitaire. L'effondrement de l'économie et le spectre des années 30 a terrifié les pays à cette époque, ce qui les a poussés à la coopération. Et le deuxième élément, eh bien, c'est que la position des grands pays du G20, je dirais même l'idéologie des grands pays du G20 en 2008 n'est pas celle de 2020. On n'avait pas Trump, on avait Bush et Obama. On a Poutine, on l'avait déjà, mais c'était pas le même nationaliste que ce qu'il est devenu. Et la Chine donnait encore l'impression qu'elle ne cherchait qu'à coopérer. Donc on a eu une évolution très très net et certainement pas dans le bon sens pendant un peu plus de 10 ans.
Ce qu'il faut y voir, c'est peut-être aussi cette méfiance. C'est peut-être aussi cette méfiance croissante à l'égard de la mondialisation, Jean-Marc Sirouen, qu'il faut voir pour comprendre aujourd'hui cette difficulté à coopérer.
Peut-être, mais pas uniquement. Ou alors cette méfiance vis-à-vis de la mondialisation a eu un effet indirect sur les dirigeants, mais bon, je pense que c'est certainement pas le seul élément. Les éléments sont à rechercher là sans doute, mais pas uniquement là, hein. Ce regain de nationalisme et de chacun pour soi qui a été entretenu depuis 10 ans. Par contre, ce qui est vrai, c'est que la crise de 2008 a certainement créé un certain désenchantement, à la fois de la part des populations, qui a permis à des dirigeants d'avoir une idéologie peut-être un peu plus brutale et moins coopérative que celle qui était encore en cours dans dans les années 2000. C'est effectivement assez étonnant qu'on n'ait pas pensé à refaire, à convoquer, par exemple, le G20. La prochaine réunion au sommet du G20, c'est celle qui était prévue, c'est en octobre 2021. Donc le G20 a été marginalisé alors qu'il était... au contraire, promu lors de la crise de 2008.
Alors le G20, on rappelle, c'est les 19 pays les plus riches, plus l'Union européenne, et la directrice du FMI a elle-même appelé, c'était le 16 mars, à une relance budgétaire mondiale coordonnée et synchronisée. Vincent Gaillon, pourquoi est-ce qu'on arrive moins bien à se coordonner aujourd'hui qu'en 2008 ?
C'est vrai que le FMI, là, est en première ligne en la matière, en l'absence, là, d'un leadership très clair du G20, et notamment du fait que, là, Donald Trump jouait la carte états-unienne unilatérale, et que les autres puissances membres du G20 n'étaient pas en mesure d'insuffler un élan aussi fort que celui de 2008-2009. Le fait que les pays qui ont la capacité budgétaire des politiques de relance sont les pays du G20 et que pour le reste des pays aux économies plus pauvres ou émergentes, eux ne peuvent pas relever ces défis seuls. Et dès le mois d'avril dernier, c'est plus de 100 pays qui ont demandé l'aide au FMI. C'est ça en fait qui a rendu le FMI un peu incontournable et qui a donné par exemple la déclaration de sa directrice générale. Et la question est maintenant, c'est est-ce que les capacités financières du FMI, sa capacité de prêt, est dimensionnée face à l'afflux de demandes de financement et de soutien à l'économie. Donc tout le monde n'est pas en mesure d'obtenir de lancer des relances économiques et notamment les droits de tirage spéciaux qui sont une des créances faites au gouvernement sans que cela n'aggrave leur endettement public et qui peuvent être tirés du FMI. Eh bien les vétérans politiques de 2009, par exemple Gordon Brown ou Larry Summers, qui était sous-secrétaire au Trésor américain, ont réclamé une nouvelle émission de DTS pour accroître les capacités de financement. Eh bien, la réponse du Trésor américain, ça a été de s'y opposer, alors pour des raisons un peu complexes, et notamment le fait que ça pourrait aider aussi bien le Venezuela que l'Iran, et donc que le Congrès américain de l'époque ne l'autoriserait jamais, ou en tous les cas ça pourrait faire une patate chaude énorme au moment de la présidentielle américaine. Donc c'est pour ça que ça a été arrêté net, alors même que c'est un instrument possible de financement de l'économie mondiale et notamment des pays qui demandent à relancer leur économie.
Vous l'avez dit, de nombreux pays ont demandé des aides exceptionnelles au FMI. C'est le cas de l'Égypte, par exemple, qui a touché 6 milliards de dollars pour tenter de faire face à la pandémie et qui devrait afficher une croissance de 3,5% en 2020, alors que c'est un pays qu'on sait très dépendant du tourisme. Je vous propose d'écouter Abebe Aemro Selassie. Il est le directeur Afrique du FMI et il parlait le 29 juin 2020.
Nous avons fourni un grand nombre de nouvelles ressources au pays durant cette année. En Afrique subsaharienne, nous accordons probablement des financements à hauteur de 2,5 milliards. Jusqu'à présent, au cours des 8-10 dernières semaines, nous avons accordé 10 milliards. Et nous nous attendons à en faire encore plus dans les prochaines semaines. Pour les 25 pays les plus vulnérables de la région, nous accordons un allègement de la dette dans le cadre du Fonds d'affectation spéciale pour les catastrophes et leur endiguement. Il s'agit donc d'un allègement de la dette assez important pour les pays. Nous avons également appelé les créanciers officiels, le groupe des créanciers du G20 en particulier, à alléger la dette. Là encore, l'argent qui aurait été consacré au service de la dette envers ses créanciers officiels pourrait être conservé dans les pays.
Sébastien Treillière, on parlait tout à l'heure des limites de l'OMS, des critiques dont elle avait fait l'objet. On peut dire que le FMI est une institution qui a plutôt joué son rôle dans cette crise ?
Oui, tout à fait. C'est pour ça que j'allais dire que la comparaison avec la crise de 2008 me semble pas si en défaveur de ce qu'on est en train de construire aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il me semble que en matière de solidarité internationale et de capacité à coopérer, il y a quand même des éléments qui sont assez positifs. Je pense aussi que la coopération autour de la crise de 2008 n'a pas abouti qu'à des résultats très positifs. C'est-à-dire, comme le soulignait tout à l'heure un des deux autres intervenants, les conséquences des politiques qui ont été mises en place à l'époque ont aussi créé un certain nombre de désordres politiques dans les pays. Et donc aujourd'hui, on est quand même essayé de faire différemment sur la crise socio-économique, dont les origines sont entièrement différentes de celles de 2008, mais de se dire qu'il faut à la fois sortir de la crise et changer de modèle. Build back better, c'est quand même un mot-clé qui est accepté partout. Je voudrais aussi souligner un autre signal. Hein. Alors, en 2020, le G20 était présidé par les Saoudiens avec en son sein des personnalités politiques aussi compliquées que Donald Trump et Vladimir Poutine, comme l'ont souligné d'autres intervenants. Néanmoins, en juin, il y a eu une déclaration commune du G20 signée aussi par la Chine qui souligne que la question de la dette est problématique. Et ça, c'est quand même assez nouveau d'entendre la Chine accepter de rentrer dans une discussion sur la dette que les pays ont envers elle et envers ses acteurs économiques. Et donc c'est tout petit comme message, mais c'est extrêmement important pour moi, parce que c'est quelque chose sur un terrain sur lequel on n'avait pas du tout de discussion avec la Chine. Et ce même communiqué signale d'ailleurs qu'il va falloir sortir de la crise d'une manière qui soit positive pour l'environnement et pour le climat, qui a été signé par les États-Unis contre toute attente. On dirait que Donald Trump n'a pas eu le temps de lire ce communiqué. Mais donc il y a eu des choses dans ce G20 qui n'étaient quand même pas le plus facile à manœuvrer. Et donc le G20 de l'année prochaine, avec les sous présidence italienne, de cette année, pardon, 2021, avec sous présidence italienne, est quelque chose de très important pour l'Union européenne. L'Union européenne a, avec l'Italie, un de ses membres en présidence du G20, et il faut maintenant que le G20, en termes de leadership politique, vienne en appui à ce que le FMI est en train de faire.
Et vous avez raison de souligner, Sébastien Treyer, que par rapport à 2008, le paradigme économique a changé. Jean-Marc Sirouen, la question était plutôt d'imposer l'austérité budgétaire à l'époque, dans le sillage de la crise, après la période immédiate de relance en 2008-2009, alors que là, il y a eu, dès le départ, un consensus sur la nécessité de faire une relance keynésienne. Jean-Pierre Sirouen.
Oui, je ne sais pas si c'est une relance keynésienne, parce qu'on met un peu Keynes à toutes les sauces, mais peu importe, effectivement.
Quand même, cette idée d'injecter de l'argent dans l'économie, avec cette idée du multiplicateur budgétaire pour permettre à la croissance de redémarrer. C'est peut-être du Keynes pour les nuls, mais ça reste du Keynes.
Disons qu'une grande partie de l'argent injecté a aussi une fonction sociale importante. Hein. C'est pour laisser passer la période du confinement ou des couvre-feux ou des fermetures de cinémas et de restaurants, ce qui n'est pas tout à fait la même chose qu'une politique de relance. Donc un aspect social qu'on appelle politique de relance, mais qui dont le caractère de relance peut être discuté ou nuancé. Mais peu importe, effectivement. Alors ce que vous aviez dit est vrai, mais c'est vrai notamment pour l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe a mené une politique différente de celle des États-Unis, notamment, et qui a créé des désillusions. C'est-à-dire qu'après 2010, on a eu beaucoup de mal. On est revenu à des politiques d'austérité, on a eu effectivement des performances économiques qui étaient plus que médiocres. Alors on en a tiré les leçons. Alors on admet plus facilement aujourd'hui, non pas les déficits budgétaires, parce que si vous regardez les déficits budgétaires, ils sont restés relativement élevés, peut-être pas assez élevés pour les pays européens, pour l'Allemagne ou pour d'autres pays. Et la dette aussi avait augmenté. Donc on a certainement été on a sonné la fin de la relance sans doute trop vite, et on en a tiré un peu les leçons en modifiant l'orthodoxie moins budgétaire que l'orthodoxie monétaire notamment dans les pays européens.
Mais la dette s'alourdit tout de même, en particulier la dette des pays pauvres, en tout cas c'est celle qui inquiète aujourd'hui. Le moratoire sur cette dette a été prolongé par le G20 jusqu'en juin 2021, et il y a des rééchelonnements qui seront possibles, des restructurations et même des effacements de dettes qui interviendront a priori cette année. Mais pour les ONG et certains économistes, comme le prix Nobel Esther Duflo, les pays riches auraient dû en faire plus, car aujourd'hui l'ampleur justement des réponses budgétaires est très inégale selon les pays. Les pays du G20 ont dépensé 20% de leur PIB en mesure de soutien à leur économie, contre seulement 6% pour les pays émergents et 2% pour les pays pauvres, Sébastien Treyer.
Oui, effectivement, cet enjeu de la dette est extrêmement important, et moi je voudrais souligner que que je parlais tout à l'heure du rôle du G20 italien qui va devoir essayer de manœuvrer pour que cette question soit pas uniquement une question du Club de Paris, des finances, des créditeurs habituels, enfin de la dette du côté des pays occidentaux, mais de réussir à faire que la Chine notamment fasse partie de cette discussion sur la dette. Il y a un autre sommet important que la présidence française veut essayer d'organiser cette année en mai sur le financement des économies africaines, qui va notamment parler de la dette des pays africains. Et il me semble que ça, c'est quelque chose qui va essayer de donner un peu d'impulsion politique, pour pas parler de leadership, parce que la France n'est pas en capacité de faire le leadership toute seule, mais où l'Union européenne a tout à fait intérêt à essayer de faire entrer dans cette discussion non seulement les pays occidentaux qui sont les habituels du Club de Paris, mais aussi des grands pays émergents comme la Chine.
Mais alors comment faire, Vincent Gaillon, pour empêcher la fuite des capitaux, puisqu'on le sait, depuis le début de la crise, les investisseurs ont retiré des milliards de dollars des pays émergents, ce qui les plonge dans une situation véritablement catastrophique.
Oui, et ça rejoint finalement ce que vous disiez précédemment sur est-ce qu'on est dans un moment keynésien. Et je pense que le keynésianisme ne peut pas se limiter simplement à une politique de relance, un multiplicateur budgétaire, mais aussi à une architecture financière internationale telle que l'avait pensée, conçue et en partie mise en œuvre Keynes à Bretton Woods, et qui passe notamment par le contrôle des mouvements de capitaux internationaux. Et c'est assez intéressant de voir que le FMI a fait quand même du chemin depuis le consensus de Washington, puisque le directeur du département Asie et Pacifique, ça devait être en avril-mai dernier, a approuvé le contrôle des capitaux comme moyen de limiter la sortie des capitaux.
Qu'est-ce que ça veut dire, Vincent Gaillon, expliquez-nous et rappelez-nous peut-être aussi ce qu'est le consensus de Washington.
Le consensus de Washington, c'était les préconisations données aux pays qui avaient besoin de l'aide du FMI, et de notamment libéraliser leur économie, libéraliser leur système bancaire, ouvrir leur économie et surtout à une concurrence étrangère, et donc avec finalement toutes les mesures de protection douanière par contingentement ou par quota ou par les normes, accélérer leur libéralisation, y compris en matière d'investissements internationaux et de capitaux. Et donc là, revenir à ces barrières, et notamment d'ailleurs le contrôle des capitaux à court terme, ceux qui s'échangent rapidement, et que le trading à haute fréquence, là, si vous voulez, en est le paroxysme. Et là, finalement, dans l'architecture initiale d'après-guerre de Bretton Woods, ce contrôle des capitaux était jugé légitime, et le mouvement des capitaux à court terme était réprouvé. On organisait une forme de répression du secteur financier, une répression financière, au profit, de la construction de ce qui apparaît être les autres composantes, finalement, du keynésianisme d'après-guerre, c'est-à-dire, premier objectif de justice sociale, un objectif socio-économique des démocraties. Et bien, pour consolider ça, il faut bâtir, un état social avec des budgets pérennes, avec une imposition progressive, notamment sur les revenus, sur le patrimoine, lutter, du coup, contre l'évasion fiscale. Et c'est peut-être un des thèmes aussi sur lequel on pourra réfléchir. C'est aujourd'hui, la taxation des grands opérateurs internationaux, et notamment les GAFAM, ne joue pas le jeu de la coopération fiscale internationale. Mmh. Et peine, pouvoir... du coup, à établir les conditions sociales du keynésianisme.
On va revenir sur ce sujet dans un instant.
France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Rocchini.
Nous parlons de la solidarité internationale. A-t-elle manqué à l'appel? Peut-on la reconstruire aujourd'hui? Nous sommes toujours en compagnie de Sébastien Treyer, Jean-Marc Sirouen et de Vincent Gaillon. Alors, selon Esther Duflo, si les États-Unis et l'Europe ne soutiennent pas davantage les pays en développement, la Chine risque d'avancer ses pions. La deuxième puissance économique mondiale se présente déjà comme le défenseur du multilatéralisme en lieu et place des États-Unis.
Au cours des dernières années, les États-Unis ont fortement poussé à l'unilatéralisme et n'ont pas respecté leurs promesses et quitté des alliances, endommageant le multiculturalisme et la coopération internationale. Ils ont une mentalité de guerre froide et prônent une compétition entre les grandes puissances. Ils développent d'une manière obscène leur arsenal nucléaire qui intensifie les inégalités stratégiques à l'échelle mondiale. La Chine n'a pas provoqué un seul conflit et n'a jamais empiété d'un pouce sur le territoire d'un autre pays. Comme les faits l'ont à maintes fois prouvé, la Chine construit la paix mondiale, contribue au développement international et fait respecter l'ordre mondial. Nous espérons que les responsables américains finiront par respecter les faits, cesseront de concocter et de propager leur virus politique et des mensonges montés de toutes pièces, cesseront d'endommager les relations sino-américaines. Sinon, cela nuira davantage à la réputation des États-Unis et à leur image.
La porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, c'était le 4 décembre 2020. La pandémie actuelle va profiter à la Chine, ou pourrait profiter à la Chine, Jean-Marc Sirouen, qui aurait la capacité d'étendre davantage son influence dans les pays en développement et dans les pays pauvres.
Bon, c'est une possibilité, mais ça ne ferait que prolonger une tendance et une orientation politique qui a été prise il y a une dizaine d'années avec la route de la soie, avec les investissements en Afrique. La Chine a une politique, alors je ne sais pas comment la qualifier, elle n'est pas internationaliste ni tellement multilatérale, elle n'est pas non plus tout à fait coloniale, mais en tout cas elle est assez expansionniste et la volonté de la Chine, effectivement, alors je ne sais pas si sa volonté c'est de remplacer les États-Unis comme puissance leader, ou si c'est de nouer avec d'autres pays des rapports qui lui sont favorables et qui servent sa politique, les deux n'étant pas incompatibles. Alors sur le virus a servi effectivement d'accélérateur, on l'a bien vu sur la politique vaccinale, la Chine a beaucoup profité, qui avait beaucoup à se faire pardonner, a beaucoup utilisé la crise du virus pour montrer son efficacité, l'efficacité de son système. Je suis pas sûr que ça suffise à convaincre les autres pays.
Mais est-ce que c'est un argument pour aller au-delà, pardon de vous couper Jean-Marc Sirouen, pour aller au-delà des 0,7% du revenu national brut dans l'aide aux pays en développement, parce que c'était le chiffre qui avait été retenu, l'objectif fixé par les Nations Unies en 1970 pour l'aide au développement. Est-ce qu'il faut aller aujourd'hui beaucoup plus loin ?
Ah ben, indépendamment de la Chine, bien sûr qu'il faut aller beaucoup plus loin, on en est très loin. L'aide avait un peu augmenté dans les années 90, dans les années post de 2008 plutôt. Oui, il faut aller beaucoup plus loin, il faut que les pays riches acceptent d'aider davantage les pays en développement, notamment sur cette crise du virus. Donc ça ne fait pour moi aucun doute. Encore faut-il évidemment que l'aide soit bien distribuée, ce qui n'est pas toujours le cas. Et l'aide n'est pas non plus le seul moyen d'aider au développement. Alors ce que l'on voit aussi, c'est que ces 0,7%, c'est l'aide publique au développement. On a cité tout à l'heure le rôle de la fondation Bill Gates, notamment à l'OMS. C'est vrai que de plus en plus, il y a des acteurs privés ou des fondations qui interviennent dans l'aide au développement.
Et on va avoir besoin des acteurs publics et des acteurs privés pour notamment accompagner les pays en développement dans le financement de leur transition écologique, parce qu'il y a l'aide qui est nécessaire évidemment maintenant face à la pandémie, mais plus largement, Sébastien Treyer, il y a évidemment l'immense enjeu écologique, et là, les pays en développement, les pays pauvres, ont beaucoup moins les moyens de financer leur transition écologique.
C'est une discussion qui date d'il y a au moins depuis Copenhague 2009, hein, la conférence des parties sur le climat de Copenhague de 2009, où on s'était dit qu'il fallait 100 milliards par an à partir de 2020 pour financer la transition vers le climat, autant en matière d'adaptation que de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est, on parle des transferts publics et privés des acteurs du Nord vers les acteurs du Sud. Mais ce montant, en fait, je voudrais juste souligner que dans l'ensemble, la question, c'est pas tant de dire il faut beaucoup d'argent si on veut être compatible avec les limites de la planète, c'est plutôt qu'il faut réorienter les montants d'investissement qui se font aujourd'hui vers les pays du Sud et vers une économie qui soit plutôt décarbonée qu'une économie qui soit intensive en énergie fossile.
Donc reconvertir les centrales à charbon, par exemple, c'est un énorme enjeu, notamment en Chine.
Plutôt de ne pas investir dans des centrales à charbon. On a vu le Pakistan le 12 décembre lors du sommet sur l'ambition climatique à l'invitation de Boris Johnson. Le premier ministre pakistanais a annoncé qu'il ne financerait plus de centrales au charbon. Ce qui est tout à fait un signal important quand on voit que l'initiative sur les nouvelles routes de la soie chinoise avait jusqu'à maintenant beaucoup financé de centrales au charbon et au Pakistan. Et donc il y a quand même un mouvement qui est en train de se positionner ici où la Chine, qui, je suis d'accord, n'était pas un pays qui ne se positionne pas en tant qu'impérialiste, mais on a entendu tout à l'heure une représentante des ministres des Affaires étrangères assez offensive. Elle cherche quand même à imposer un peu ses normes de finances durables, ses normes sur les investissements à travers son initiative des nouvelles routes de la soie. Et on voit des pays du Sud, comme le Pakistan, dire « Attendez, on a aussi notre propre décision et on va se décider pour une reconstruction et des investissements qui soient alignés avec l'accord de Paris. On ne financera plus de charbon. » Donc vous voyez que les jeux de pouvoir entre la Chine et les pays industrialisés de l'Ouest ne se passent pas sans la voix d'un certain nombre de pays du Sud qui décident de donner aussi un sens et une direction à la reconstruction qu'ils doivent mettre en place.
Vincent Gaillon.
Oui, non, d'autant que la Chine commence à faire payer assez cher à ses partenaires commerciaux, que ce soit au Sri Lanka, en Angola ou ailleurs, ses investissements. Et donc l'aide unilatérale chinoise peut... connaît aussi maintenant un certain scepticisme, voire des résistances, quand ils peuvent s'y opposer concrètement, de toute une série de pays émergents ou de pays pauvres. Ensuite, sur la question des financements, c'est vrai, la place des acteurs privés, notamment si on en revient dans le cadre de l'OMS, qui est quand même l'institution onusienne qui soutient encore le renforcement des systèmes de santé et l'exigence de solidarité entre les pays, ces contributions privées, ça impose aussi finalement une logique de programme dans les politiques sanitaires, alors qu'ils peuvent avoir des effets intéressants, mais aussi ça a tendance à fermer un peu la réflexion et à perdre la vue d'ensemble, notamment en matière de transition écologique. Du coup, faut arbitrer entre ces contraintes. Et le fait d'accroître les contributions volontaires, notamment des États à l'OMS, au budget, qui ne coûte pas non plus des milliers d'essences si tout le monde verse sa part, et la Chine a beau jeu de désormais chercher à prendre la place des États-Unis, elle est très très loin derrière les États-Unis en matière de contribution, ça permettrait aussi aux opérationnels de l'OMS et aux fonctionnaires de consacrer moins de temps à démarcher les acteurs privés pour la levée de fonds et à justifier de leur usage a posteriori. Du coup, ça rendrait plus efficient, plus efficace le fonctionnement de ce type d'organisme.
Alors, il y a un dernier enjeu que je voudrais aborder avec vous, que vous avez évoqué tout à l'heure, Vincent Gaillon, c'est la question fiscale, la coopération fiscale, puisque l'OCDE propose aux États un impôt mondial minimum de 12 à 13% sur les bénéfices des multinationales. L'architecture du projet est prête, mais il faut maintenant un accord politique, et ça peut prendre évidemment beaucoup de temps, Vincent Gaillon.
Oui, on sait que l'administration Trump avait bloqué la négociation, et même plus que ça, puisqu'elle s'était réappropriée les outils développés par le Centre d'études fiscales de l'OCDE à des fins nationales, en fait. Donc là, on va voir ce que fera l'administration Biden sur ce point, si elle jouera la carte du multilatéralisme, un multilatéralisme de club comme l'OCDE. Ça reste à voir.
Ce sera le chantier du nouveau secrétaire général de l'OCDE, puisque l'actuel secrétaire, Angel Gurria, quitte ses fonctions en juin prochain.
C'est ça, tout à fait. Et à ce titre, je pense que c'est intéressant de voir le rôle, ça élargit un peu le spectre d'analyse, le rôle d'acteurs sociétaux, et notamment, là, je pense au consortium international des journalistes d'investigation qui ont sorti les LuxLeaks, les Panama Papers, et récemment, même si ça fait moins de bruit parce que, justement, il y avait la crise du Covid, les FinCEN Files, qui donnent une pression, en fait, sur les acteurs étatiques qui peuplent les organisations internationales pour faire des choses en matière de taxation mondiale, et notamment de taxation mondiale des GAFAM.
Je renvoie à ce sujet à l'excellent podcast de France Culture consacré à la question des Panama Papers, la mécanique du journalisme qui est disponible sur l'application Radio France. Alors je voudrais vous entendre aussi, Jean-Marc Sirouen, sur cette question de la coopération fiscale, puisque c'est un des grands enjeux aujourd'hui, et on a le sentiment avec cette proposition de l'OCDE que les choses avancent, que l'architecture de ce projet est désormais bien là et qu'il pourrait peut-être aboutir à la fin de l'année 2021. C'est en tout cas le souhait de l'OCDE.
Oui, c'est possible. Les esprits ont beaucoup évolué, hein, et le travail qu'a fait l'OCDE depuis maintenant très très longtemps a été très très utile et a quand même beaucoup influencé. Alors ceci dit, il y a l'OCDE, il y a l'Union européenne. Hein, on a fait des progrès aussi dans l'Union européenne, mais il en reste beaucoup à faire. Un des problèmes de l'Union européenne, c'est que la fiscalité, c'est une relève donc d'un consensus. Donc
on a vu que sur la taxe GAFA, la France et l'Allemagne ne parvenaient pas à s'entendre, par exemple.
Voilà. Donc ça serait
avant
ça serait
même de parler d'harmonisation fiscale au niveau européen.
Voilà. Alors s'il y a une harmonisation, il y a un accord avec les États-Unis, c'est formidable. Mais c'est vrai qu'il y a aussi à travailler au niveau européen encore. Hein, c'est une question qui est très ancienne, qui a avancé sur certains points, mais certainement pas à un rythme satisfaisant.
Alors selon le directeur général de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, il faut, je le cite, « trouver une nouvelle façon de travailler ensemble de manière mieux coordonnée et plus cohérente afin de tenir compte comme il se doit des liens entre la pauvreté, les inégalités, le changement climatique et la santé ». Sébastien Treyer, c'est là le grand défi de l'année 2021.
Oui, je pense que c'est une citation extrêmement utile parce qu'elle donne bien deux dimensions du problème. D'une part, il faut réussir à tenir ensemble des enjeux qui, jusqu'à maintenant, ont traité de manière séparée, la question du changement climatique, de la pauvreté, de l'inégalité, de la santé. Normalement, on a depuis 2015 un agenda 2030, les objectifs de développement durable, qui servent à faire les liens entre ces différents sujets. Mais on voit bien que dans l'action des États, c'est pas si facile. Il me semble néanmoins que tout l'enjeu de la reconstruction en sortie de crise permet et notamment les montants qui sont dégagés autour de cette reconstruction, ou bien les enjeux de dette que cela pose, sont le moment ou jamais d'essayer de penser un nouveau modèle économique qui permette de prendre de front l'ensemble de ces sujets d'inégalité, de transformation structurelle de l'économie pour qu'elle soit décarbonée et positive en matière de biodiversité, etc. Ça, c'est le premier enjeu, c'est comment est-ce qu'on va coordonner ces sujets, et il me semble que les plans de relance, les plans de reconstruction et l'enjeu de la dette peuvent être un moment où, autour de ces grandes décisions macroéconomiques, on concentre la coordination de ces sujets. Le deuxième point, c'est ensuite les relations entre États. Et il me semble que depuis le début de cette émission, on se dit, en fait, on est en train de passer d'un système onusien qui était en gros dominé, ou avec un leadership ou une dominance des États-Unis, et on a du mal à se faire à l'idée que ça soit la Chine qui prenne le relais. On ne sait pas si la Chine le veut vraiment, mais enfin, on a l'impression qu'elle commence à mettre un peu les pieds dans le plat. Elle monte ses nouvelles routes de la soie un peu comme une contre-OCDE avec des mécanismes de règlement des différends sur les accords d'investissement dans les pays des nouvelles routes de la soie. Donc on voit une espèce de concurrence sur les institutions, et il me semble qu'il faut qu'on arrive à créer les bases de ce que serait un leadership distribué, c'est-à-dire qu'on accepte qu'il n'y a pas d'hégémonie aujourd'hui et qu'on voit comment l'Union européenne peut être aussi à la manœuvre avec ses présidences du G20 et les Britanniques au G7 pour essayer de montrer ce que c'est qu'un leadership politique qui ne passe pas par une puissance hégémonique,
merci,
mais par un ensemble de pays.
Un grand merci à tous les trois, Vincent Gaillon, Jean-Marc Sirouen, Sébastien Treyer, de nous avoir accompagné tout au long de cette émission. Je rappelle donc Vincent Gaillon, politiste, maître de conférence à l'Université Paris-Dauphine, Jean-Marc Sirouen, économiste, professeur émérite à l'Université Paris-Dauphine, et Sébastien Treyer, directeur général de l'IDRI, l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales. Merci infiniment à tous les trois.
São os quitutes da banda, são as bebidas também. Senta na esteira ou no luando.
Xicamenuê, xicamenu coxi na coetenu. Xicamenuê,
quitava bombom com jingum.
C'était Entendez-vous l'écho sur France Culture, une émission préparée par Marguerite Caton, Aliette Ovine, Mathilde Tonfourcade et Antoine Jourdan. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique aujourd'hui, Jérémy Kaufmann. Demain, premier jour de notre série consacrée à Milton Friedman. Nous reviendrons aux origines de la pensée de l'inspirateur de Reagan et Thatcher avec l'historienne de l'économie, Béatrice Cherrier. D'ici là, vous pouvez écouter l'ensemble de nos émissions sur notre site franceculture.fr et sur l'application Radio France, et nous retrouver sur Twitter sur le compte d'Entendez-vous l'écho.